France Culture.
Pourquoi avez-vous peur? N'avez-vous pas encore la foi?
Bonjour, Jean-Luc Gadreau avec vous sur France Culture. Bienvenue dans Soleil, le rendez-vous protestant, proposé par la Fédération protestante de France. On est le premier dimanche de l'Avent ce matin et nous entrons ainsi dans ce temps où l'attente devient une manière de vivre, une attente patiente, éveillée, qui nous apprend à regarder autrement. Comme chaque dimanche de cette série que je vous propose, celle de l'Avent et de Noël, notre émission s'ouvrira avec la chronique musicale de François Xavier Maigre, pour nous rappeler que parfois la musique dit le mystère mieux que les mots. Et puis je m'entretiendrai avec un représentant d'une église ou d'une œuvre de la Fédération protestante de France, quelqu'un d'engagé dans le protestantisme, pour méditer ensemble ce chemin vers Noël. Ce matin, il s'agira du pasteur Éric Le Guéhennec, secrétaire général de la Fédération des églises évangéliques baptistes de France. Bonjour François-Xavier Maigre.
Bonjour.
Je suis très heureux de vous accueillir pour la première fois ce matin, mais aussi dans la perspective de vous retrouver chaque dimanche de cet Avent à 8h30 et puis le jeudi 25 décembre à 9h30. Quelques mots de présentation pour que nos auditeurs vous situent mieux. Alors je disais journaliste, poète, auteur, j'ai oublié aussi de dire que vous êtes musicien. Mais vous, comment vous définiriez-vous ?
Un peu comme tout ça en même temps. je crois que le fil conducteur de ma vie, c'est les mots, c'est les récits. J'ai été journaliste pendant plus de 15 ans dans le groupe Bayard.
Ouais.
Aujourd'hui,
à La Vie, je crois.
Non, vraiment
la
à Bayard. Ouais, La Croix, Le Pèlerin, Panorama. Et aujourd'hui, je suis directeur éditorial dans un cabinet de conseil. J'écris pour des dirigeants, pour des entreprises. Et le fil rouge vraiment de cette vie professionnelle, c'est les mots. Mais c'est aussi les mots dans ma vie personnelle, puisque je publie de la poésie, je publie des livres, et j'ai écrit aussi de la musique depuis très longtemps. Je suis passionné de musique. La musique est une forme d'écriture, est une forme de relation au monde. Et c'est cette relation en fait qui traverse tous les champs de mon existence.
Mots, paroles, musique, et puis foi. Vous accordez aussi une importante place à la spiritualité dans votre vie.
Oui, depuis mon enfance, après avec parfois des périodes plus ténues, mais en tout cas ça a toujours été pareil, un fil conducteur. Et là encore, c'est un rapport à la parole.
Quelques mots aussi donc de ce livre, ce dernier livre qui donne sens aux chroniques que vous allez nous proposer dans ces 5 rendez-vous, God Bless Rock and Roll.
Bah oui, c'est un petit peu l'intersection de mes deux passions, à la fois pour la spiritualité chrétienne, pour la foi, mais aussi pour la culture rock qui est entrée dans mon adolescence de manière assez fracassante, comme chez beaucoup d'adolescents des années 90. Et elle m'a toujours habité jusqu'ici. Et moi, ce qui me passionne dans la vie, c'est d'essayer de réunir les choses, c'est d'essayer de faire dialoguer les différents versants de nos existences, surtout à une époque où il y a une espèce de polarisation dans notre société. On est tous renvoyés dans notre bulle affinitaire. On a l'impression que plein de choses sont irréconciliables. Ouais. Et moi, j'ai voulu montrer qu'en fait, le christianisme avait quelque chose à dire sur toutes les expressions culturelles des hommes.
Un livre édité par Première Partie, que l'on peut trouver partout, que je recommande chaudement d'ailleurs. Eh bien, que Dieu bénisse le rock'n'roll, alors, en pensant aussi à un titre iconique de Larry Norman que je vous livre en français, « Pourquoi le diable aurait-il toute la bonne musique ?» Vous connaissez peut-être aussi cette chanson. François-Xavier, le micro est à vous maintenant, c'est votre première chronique sur France Culture. Aujourd'hui, vous nous proposez de nous envoler avec vous du côté de la Californie avec les Beach Boys. Mais attention, ce n'est pas la version surf et crème solaire des Beach Boys, si j'ai bien compris.
Non, pas tout à fait, vous avez raison Jean-Luc. J'aimerais moi explorer avec vous le versant spirituel des Beach Boys, celui qui nous rapproche du ciel. L'éternité pour un croyant, c'est toujours la grande question. On dit que l'éternité est un état relationnel, une présence, un amour infini, bien davantage qu'une durée. C'est sans doute vrai. Je ne sais pas pour vous Jean-Luc, mais moi, je ne suis pas vraiment pressé de le savoir. Du reste, quand on écoute les 2 minutes 49 secondes de God Only Knows, on se dit que l'éternité s'éprouve peut-être aussi dans le temps. ce bijou de pop musique demeure, près de 60 ans après sa sortie, une pièce maîtresse de la pop culture. De celles qu'on emporterait sans hésiter sur une île déserte. De celles qui jamais ne lassent, même à la centième écoute. De celles surtout qui nous élèvent à une dimension insoupçonnée. Oui, God Only Knows est sans doute l'une des chansons les plus spirituelles de l'histoire du rock.
Alors vous m'intéressez là très clairement et vous me surprenez un petit peu. En tout cas, envie d'en savoir davantage. Qu'est-ce qui rend cette chanson si particulière selon vous, bien sûr?
Alors, déjà, c'est pas que selon moi, c'est surtout selon Paul McCartney lui-même, l'éternel rival britannique des Beach Boys, qui décrit God Only Knows comme la plus belle chanson d'amour jamais écrite. Excusez du peu. Dans les années 80, David Bowie en personne se confrontera au monument avec une reprise de son cru. Bono, le chanteur de U2, y entend une preuve de l'existence des anges et Hans Zimmer, le génial compositeur de musique de film, une chanson parfaite.
Alors si Hans Zimmer, McCartney et Bono le disent, eh bien...
Ouais, ça vous dit le niveau. Hein. C'est vrai qu'elle a quelque chose de divin, cette chanson. Alors, on est sorti du rock ensoleillé des origines. Les frangins Wilson ont mûri. Nous sommes en 66 et Brian, le plus doué d'entre eux, compose ce pur chef-d'œuvre. Son but, rivaliser avec les prouesses des Beatles qui enchaînent les opus outre-Manche. On y entend la voix limpide et haut-perchée de Carl Wilson, le frère cadet de Brian, avec sa mélodie ciselée, pleine du fantasy baroque, avec ses cordes, ses grelots, ses bois et ses accordéons, joués par une vingtaine de musiciens. God Only Knows transcende les genres. On devine un foisonnement d'influences pop, mais aussi classiques, notamment Bach et Handel. Ce qui frappe d'emblée, c'est la progression d'accords complexes, les contrepoints vocaux sophistiqués, et cette ambiguïté harmonique donnant le sentiment étrange de flotter entre deux mondes. Et que dire de la mention de Dieu dans le titre, un tabou dans la pop culture de cette époque? Tout est réuni pour surprendre et pour effleurer le ciel.
Alors ok, mais de là en même temps à y voir une chanson mystique, entre guillemets, vous y allez peut-être un peu fort, non, François-Xavier?
Mais je crois pas, parce qu'en interview, Brian Wilson lui-même a souvent souligné la dimension spirituelle de Pet Sounds, l'album dont est tiré God Only Knows. Son frère et lui racontent avoir parfois prié ensemble pendant les sessions d'enregistrement, transformant l'album en une cérémonie religieuse. Cette ambiguïté entre le profane et le sacré, entre l'implicite et l'explicite, c'est justement ce qui fascine ici. Comme chez bien d'autres artistes pop et rock, la spiritualité chrétienne surgit sous une forme inattendue, comme s'il s'agissait de s'approcher du mystère sur la pointe des pieds, dans l'effleurement, la douceur et le doute. Et ce faisant, Brian Wilson atteint une forme d'universalité. S'agit-il d'amour humain ou divin? Chacun en jugera, et ce n'est pas l'essentiel. Brian Wilson nous a quittés au mois de juin. La mort de cette personnalité à fleur de peau, artiste rare, immensément doué, rend les paroles de God Only Knows plus poignantes que jamais. Je ne t'aimerai peut-être pas toujours, mais tant qu'il y aura des étoiles au-dessus de toi, tu n'auras jamais besoin d'en douter, je te rendrai si sûr de cela, Dieu seul sait ce que je serai sans toi. Adressé à une femme mystérieuse, God Only Knows est un baume pour l'âme. Est-ce une prière ? Dieu seul sait.
Dieu seul sait, les Beach Boys, pour cette première chronique musicale de l'Avent.
I may not always love you, but long as there are stars above you, you never need to doubt it. I'll make you so sure about it. God only knows what I'd be without you. You should ever leave me. Well, life would still go on, believe me. The world could show nothing to me. So what good would living do me? God only knows what I'd be without you. What I'd be without you.
Merci François-Xavier Maigre pour ce voyage sonore qui nous ouvre déjà le cœur. Joli texte, mais quelle belle mélodie également. On a hâte déjà d'être à dimanche prochain pour continuer avec un autre titre, un autre artiste. Mais puisque l'avant est ce temps où tout commence à frémir doucement, eh bien j'accueille maintenant le pasteur Éric Le Guéhennec pour parler avec lui de cette attente justement qui transforme, qui prépare, qui espère. Bonjour Éric Le Guéhennec.
Bonjour Jean-Luc, bonjour à tous.
Je le disais en introduction tout à l'heure, vous êtes secrétaire général de la Fédération des Églises Évangéliques Baptistes de France. Alors, pour commencer, comment décririez-vous aujourd'hui la mission principale de cette fédération ? Et je crois d'ailleurs qu'il y a un grand chantier entamé depuis quelque temps autour d'un projet fédératif.
Oui, absolument. La mission principale, on pourrait la retrouver dans notre mot d'ordre qui est vivre et proclamer l'évangile. Proclamer l'évangile, effectivement, le répandre, mais aussi et d'abord le vivre nous-mêmes, dans nos églises et dans nos vies. Alors, vous parliez d'un grand projet. Ben justement, on aimerait rafraîchir ce mot d'ordre, cette vision. C'est un travail où on prend notre temps pour avoir quelque chose vraiment sur lequel on se rassemble, on se retrouve et qui devrait aboutir cette année 2026.
Nous sommes le premier dimanche de l'Avent, première émission de cette série donc qui nous conduira jusqu'à Noël. Justement, Noël et Éric Le Guéhennec sont des mots qui vont bien ensemble. Quel est votre rapport intime à cette fête ?
C'est intéressant comme question parce que pendant longtemps, j'avais un peu de difficulté avec cette fête. Jeune homme, j'avais des positions un peu arrêtées sur certains sujets et j'étais irrité de voir ce que la fête de Noël était largement commerciale. J'étais braqué sur Pâques qui était la véritable fête chrétienne. Mort et résurrection du Christ, par laquelle le salut est offert aux hommes. Et la période de l'Avent était un peu oppressante avec les lumières, les courses aux cadeaux, etc. Et puis une année, c'est les jeunes de mon église qui m'ont rattrapé et qui m'ont demandé de leur faire une étude sur Noël. Et je me suis penché sur le sujet sans enthousiasme, mais avec sérieux. Et je me suis fait attraper par l'explosion de louanges qu'il y en a dans les évangiles, les anges, les bergers, les mages, les Siméon et Anne. Pourquoi tout ce bruit alors que ce n'est pas là que le salut est accompli ? Et voilà, me rendre compte que les anges et ceux qui les écoutent ont une façon de voir différente de la nôtre, en tout cas de la mienne. Avec la naissance de Jésus, c'est la promesse tant attendue qui enfin s'accomplit. Les prophéties sur la venue d'un sauveur s'incarnent, même s'il n'est pas réalisé, le salut est en marche et rien ne viendra l'arrêter. Et depuis, Noël est devenu pour moi la fête des prophéties qui s'accomplissent et de l'attente réalisée.
Alors justement, puisque nous parlons de prophétie, je vous propose maintenant d'entrer dans notre rendez-vous avec la parole, avec un texte que vous avez évidemment choisi et sur lequel ensuite vous nous donnerez de réfléchir. Il s'agit d'un texte du livre d'Ésaïe, chapitre 9, les 6 premiers versets qui nous sont lus par Emmanuela RM.
Le peuple qui marche dans l'obscurité voit une grande lumière. Sur ceux qui vivent au pays des ténèbres, une lumière se met à resplendir. Seigneur, tu les multiplies, tu rends leur joie immense. Ils se réjouissent en ta présence comme on se réjouit à la moisson, comme on crie de joie en partageant le butin. Ainsi que tu le fis autrefois quand tu mis les Madianites en déroute, tu brises aujourd'hui le joug de l'oppression qui pèse sur ton peuple, la barre qui écrase ses épaules, le gourdin dont on le frappe. Et toute botte ennemie martelant le sol, tout manteau roulé taché de sang sont à brûler et deviennent la proie du feu. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Dieu lui a confié l'autorité. On lui donne ses titres. Conseiller admirable, Dieu fort, Père pour toujours, Prince de la paix. il doit étendre son autorité et assurer une paix sans fin. Il occupera le siège royal de David et règnera sur son royaume pour l'affermir et le maintenir en établissant le droit et la justice de Dieu, dès maintenant et pour toujours. Voilà ce que fera le Seigneur de l'univers dans son ardent amour.
Éric Le Guéhennec, avec ce que vous venez de nous dire juste avant cette lecture, on comprend mieux le choix de ce texte. Nous sommes dans le livre d'Ésaïe, qui n'est autre qu'un prophète. Nous sommes donc là dans le registre de la prophétie.
Absolument, absolument. Et puis une prophétie connue, quand on est passé par plusieurs Noëls, plusieurs avant, on l'a déjà entendue. Nous reconnaissons aisément Jésus dans ce Fils annoncé, dans cette lumière qui se lève sur un peuple plongé dans les ténèbres. Et j'ajouterais que pour nous qui vivons dans l'hémisphère nord, en cette période de l'année où les jours sont les plus courts, eh bien cette grande lumière annoncée par le prophète, ça nous parle. Mmh. Elle résonne avec notre propre désir de clarté et de chaleur.
Mais alors, est-ce que l'on parle véritablement de Jésus dans ce texte ?
C'est une bonne question à se poser. Parce que nous regardons cette prophétie dans le rétroviseur. Oui. On la regarde après Jésus-Christ et il nous paraît naturel d'y voir une annonce directe de sa naissance. Mais il ne faut pas oublier que cette prophétie a d'abord été donné à des personnes qui vivaient à une autre époque, dans une réalité bien différente de la nôtre, plus de 7 siècles avant la naissance du Christ. On en voit des indices dans le texte qui a été lu. On aurait aussi pu lire le verset qui précède. Dans le temps passé, le Seigneur a déshonoré la région de Zabulon et celle de Nephtali. Mais dans l'avenir, il mettra à l'honneur la route qui longe la mer, le pays à l'est du Jourdain et la Galilée, région des étrangers. On est dans un contexte militaire compliqué, avec une menace d'Assyrienne, la superpuissance de l'époque, et elle avait déjà envahi le nord du pays, Nephtali, Zabulon, cité dans ce dernier verset du chapitre 8. Les images qu'Ésaïe utilise, les bottes de l'ennemi, les manteaux roulés dans le sang, ça renvoie directement à l'équipement militaire des Assyriens. Alors du coup, plusieurs ont vu d'autres figures dans ce fils donné. Il est question d'un descendant de David, d'un héritier du trône. Et parmi les candidats, beaucoup ont pensé au roi Ézéchias, qui a vécu à cette époque. Ça pourrait coller, d'autant que sous son règne, on a vu les Assyriens s'éloigner. Mais je trouve qu'il y a un problème avec cette interprétation, c'est que déjà le roi Ézéchias était né 3 ans avant les événements, alors que là on parle d'un roi à venir. Et puis surtout, la description faite par Ésaïe, conseiller admirable, Dieu fort, père pour toujours, prince de la paix, ça me semble un costume un peu large. Pour Ézéchias, ouais. Il est annoncé l'abondance matérielle, des familles nombreuses, un règne de paix et de justice qui n'aura pas de fin. Et celui d'Ézéchias, il s'est bel et bien terminé.
En effet, oui.
Ça me fait dire que Ésaïe porte le regard plus loin, il voit plus loin que la menace assyrienne. Pour lui, c'est l'occasion de réfléchir à un problème plus profond. Cette obscurité dont il parle, elle dépasse largement les problèmes militaires et avec la superpuissance du moment. Le monde est marqué par l'inégalité. La partie forte, la plus riche, domine la plus pauvre, la plus faible. Cela existait en Israël avant l'arrivée des Assyriens, cela continuait après leur départ. Et dans la Bible, cette réalité, c'est la conséquence du péché. Le péché, c'est pas seulement la dégradation de la relation avec Dieu, c'est aussi la dégradation de la relation entre les êtres humains. Et ce problème-là, il n'y a que Jésus qui le règle vraiment. Il est la véritable autorité bienfaisante, celle qui apporte la paix, le droit et la justice à travers un règne qui n'aura pas de fin.
Alors je vous entends, mais en même temps, on ne peut que reconnaître que les inégalités sont toujours présentes aujourd'hui encore.
À toucher. C'est vrai, notre monde souffre toujours du péché. On pourrait même dire que les inégalités se sont creusées, les riches sont plus riches, et les pauvres sont toujours aussi pauvres et de plus en plus nombreux. Nous le constatons déjà dans notre propre pays, mais cela devient encore plus criant quand on se compare avec d'autres pays, en particulier ceux qui nous fournissent des produits manufacturés à bas prix. Alors on peut légitimement se poser cette question, qu'a changé la venue de Jésus ? Mais j'aimerais revenir un instant au texte. J'aime porter une attention particulière aux mots de liaison, aux articulations. Et lorsque le prophète écrit « car un enfant nous est né », ce « car », c'est une conjonction de coordination qui exprime la causalité. Jésus promet au peuple qui marche dans les ténèbres une très grande joie, une multiplication, ça évoque une famille nombreuse, ça fait pas forcément rêver aujourd'hui, mais ça fait aussi penser à des amis nombreux, à des relations nombreuses, à la capacité d'être fort face aux agressions. Et puis, il promet aussi un confort matériel, exprimé par l'image de la moisson, ce moment où on le reçoit, le fruit de son travail, le partage du butin, lorsque l'agression des ennemis se transforme en source de richesse.
Et tout cela grâce à un enfant.
Absolument. Grâce à un enfant. On sent bien qu'il va falloir attendre avant de voir arriver la promesse. Il faudra que l'enfant grandisse avant de devenir ce roi si puissant. En fait, quand Jésus est venu, il a apporté une nouvelle promesse. Il a dit à plusieurs occasions qu'il reviendra. Dans les évangiles, plusieurs fois, il évoque « quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire ». Et ce jour-là, le péché et ses conséquences disparaîtront définitivement. Ce jour-là, le règne d'autorité bienfaisante qui amène paix, droit et justice n'aura pas de fin. Une nouvelle promesse, donc. On peut être déçu, parce que on n'aime pas attendre. En tout cas, la patience, ce n'est pas mon fort. Mais la foi, n'est-ce pas attendre ? Attendre dans la confiance que celui qui a promis accomplira sa promesse. Lorsqu'on possède, lorsqu'on a devant les yeux, on n'a plus besoin de foi. On n'a plus besoin de faire confiance. La foi en Dieu, c'est croire que nous pouvons lui faire confiance. L'espérance chrétienne, c'est celle du retour de Jésus-Christ comme jour de l'accomplissement de ses promesses. Nous vivons un entre-deux, entre le déjà et le pas encore. Jésus est déjà venu, mais l'entièreté de la prophétie n'est pas encore réalisé. Et on le trouve dans notre passage avec à la fois des verbes au présent, le peuple voit, Seigneur, tu les multiplies, tu rends leur joie immense, et puis des verbes au futur. Il doit étendre son autorité, il règnera sur le royaume. Ainsi, je crois que Noël, c'est une aide, un bonus pour nous aider à croire. Noël nous rappelle que Dieu tient ses promesses. Comme Jésus est né des siècles après la prophétie d'Ésaïe, il reviendra, parce qu'il l'a promis et que Dieu tient ses promesses. Quant à l'Avent, cette période d'attente qui nous conduit jusqu'à Noël, elle nous rappelle que nous vivons nous-mêmes dans l'attente. Dans l'attente de l'accomplissement de la dernière promesse, celle du retour définitif de Jésus-Christ et de son règne sans fin. Et finalement, nous pouvons être reconnaissants pour cette période. Le compte à rebours vers Noël nous rappelle un autre compte à rebours, celui qui nous conduit vers l'accomplissement de notre espérance.
Alors, que faire concrètement pendant cette attente ?
C'est vrai que dans la Bible, l'attente, c'est quelque chose d'actif. Il y a ces exhortations, veiller, préparer la voie. Notre attente, je pense, elle peut prendre plusieurs formes, à chacun de trouver la sienne, mais d'abord, j'aimerais nous encourager à vivre la période de l'Avent. Dans la tradition chrétienne, elle correspond aux quatre dimanches qui précèdent Noël. Et je connais beaucoup d'églises où l'on ne vit rien de particulier en ce moment-là. Pourtant, lire les textes proposés, relire les prophéties concernant Jésus, les méditer, constater qu'elles ne sont qu'en partie accomplies et qu'il en reste à advenir, c'est déjà se placer dans l'attente. Donc c'est une première chose qu'on peut faire de la place pour recevoir la méditation sur ce sujet. Ensuite, on peut prier. Jésus a appris à ses disciples à prier avec cette prière qu'on appelle le Notre Père et qui s'ouvre sur cette triple demande. que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. » En enseignant cette prière, Jésus invite à prier dans le sens de la volonté de Dieu, à lui demander de faire ce qu'il a promis. Et l'Avent est l'occasion de renouveler cette prière. Nous prenons ainsi la suite de ceux qui nous ont précédés, en particulier les croyants de l'Ancienne Alliance qui ont prié pour que l'enfant promis naisse enfin. Et puis enfin, nous aimerions certainement agir. Comment participer à l'œuvre de Dieu de recul des ténèbres, de recul de l'oppression? Je crois que les occasions ne manqueront pas dans les jours à venir. Lors de nos courses de Noël, nous verrons immanquablement des personnes démunies sollicitant la générosité des passants. En cette période de fin d'année, nous serons également sollicités par des œuvres qui invitent à de derniers dons avant la clôture fiscale. Peut-être sommes-nous au bénéfice d'un 13e mois qui nous donne un peu plus d'aisance financière et nous permet d'être généreux. Clairement, nous ne solutionnerons pas le problème des ténèbres qui oppressent les pauvres, mais nous pouvons marcher avec Dieu, lui emboîter le pas dans la justice qu'il promet. Et c'est ma prière qu'au milieu de la course annuelle aux préparatifs, chacun de nos éditeurs puisse ainsi se souvenir que derrière le petit enfant de la crèche, il y a la promesse d'un roi providentiel accompli, une promesse de justice encore en attente, et que nous pouvons vivre cette attente de façon active et, je l'espère, joyeuse.
Merci, pasteur Éric Le Guénec, pour cette méditation ce matin. Merci. Qui nous ramène à l'essentiel, finalement, Noël comme mémoire d'une promesse tenue, comme invitation à vivre l'espérance, non pas les bras croisés, on l'a compris, mais dans une vraie attente active, confiante, généreuse. Alors, en cette période où la lumière tarde, mais revient toujours, que chacun puisse avancer avec cette certitude, Dieu n'a pas fini d'accomplir ce qu'il a commencé, et que notre attente humble et joyeuse devienne déjà un signe de sa présence. Je vous souhaite une très belle suite d'avant, Éric, ainsi qu'à nos auditeurs et auditrices, évidemment, à vous aussi, François-Xavier, et je vous propose de terminer cette émission avec le titre « Joie pour le monde » dans la version québécoise de l'équipe musicale de l'église La Chapelle à Montréal.
Joie dans le monde, le Seigneur vient, la terre accueille son roi, que tous les cœurs lui préparent une place, la terre et le ciel chantent, la terre et le ciel chantent, nous chanterons.
C'était Solae, le rendez-vous protestant sur France Culture, proposé par la Fédération protestante de France, présenté par Jean-Luc Gadreau, réalisé par Thomas Jost et Bruno Mourlan à la prise de son. Cette émission est à réécouter cette semaine sur le site protestant-au-pluriel.org, mais aussi à tout moment sur celui de France Culture ou en podcast au moyen de l'application Radio France. À la télévision ce matin sur France 2 de 10h à 10h30 dans le cadre de Présence protestante, un culte en direct avec les églises protestantes de Marseille. La semaine prochaine, nous continuerons cette avancée vers Noël avec François-Xavier Maigre, naturellement, et puis Gaëlle Couvez, coordinatrice du service régional jeunesse de l'Église protestante unie en région parisienne. Sur France Culture, vos programmes du dimanche matin continuent avec Talmudique, présenté par Marc-Alain Wachnin, juste après vos informations de 9h. Et moi, je vous souhaite un très très bon dimanche de l'Avent, premier dimanche de l'Avent, à chacune et chacun.
Chanteur.